interviews, 2 jours, un festival, sais-tu? Voilà. Vous êtes en partance pour Sais-tu avec les 3 programmateurs, Morgane Besnard, Margot Pario et Guillaume Pellet. Pourriez-vous chanter ensemble la 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 la?
La
la
la la la
la la la. Super, merci. Parfois en binôme, parfois seul, costumé ou dans un véhicule décoré, je viens vous chercher à la gare de Quimper pour vous emmener dans la ferme de Morgane Coidou à Élian. Assis ou assise sur une banquette de 4, vous attendez que la navette démarre. Vous êtes aujourd'hui en avant-première, le festival n'est pas encore tout à fait commencé. Pour cette émission spéciale, je vais faire un détour sur la route pour qu'on laisse vraiment le temps à Morgane, Margot et Guillaume de déployer leurs pensées, leur programmation 2021 et leurs choix musicaux. Derrière les fenêtres, vous voyez une suite de chants, vert, marron, jaune. Êtes-vous déjà venu à Sais-tu, je vous demande ? Connaissez-vous des artistes du festival ? En tout cas, bienvenue. Sais-tu, c'est faire collectif pour un temps. Organisateurs, artistes, bénévoles viennent quelques jours en amont. Ils travaillent, mangent, campent et vivent ensemble, chacun à leur rythme, à celui du bruit de la météo et des animaux. Nous sommes samedi midi, une nouvelle phase commence. On sent l'excitation de l'avant-spectacle. Les coulisses se referment et place aux propositions artistiques. Vous allez voir, on va passer un moment étrangement agréable. La nuit, il fera froid, le midi, on mangera bien et surtout, on verra plein de choses dépaysantes et réconfortantes. Mais avant de sortir se mêler à la foule, écoutons donc nos 3 programmateurs, Morgane, Margot et Guillaume, nous parler d'eux et du festival. Bonjour tous les 3.
Bonjour.
Bienvenue dans la navette, sais-tu ? Guillaume, es-tu bien installé ?
Très bien.
Margot, tu trouves que je roule trop vite ?
Un peu trop vite.
Je vais ralentir alors. Morgane, est-ce que tu serais prête à te présenter ?
Oui.
Super. Alors, on t'écoute.
Je m'appelle Morgane. Je fais la programmation dans Sais-tu aux côtés de Margot et Guillaume. Et j'ai commencé la programmation dès la première édition avec Marie Lours qui a arrêté l'aventure depuis 2016.
Guillaume, tu veux enchaîner ?
Oui, donc je suis un des 3 membres de l'équipe de programmation depuis 2 ans.
Et qu'est-ce que tu fais à part la programmation de Sais-tu ?
Diverses choses, mais de l'art sous diverses formes, de la peinture, aussi un peu d'édition.
Ok. Et toi Margot, tu veux te présenter brièvement ?
Oui, donc moi j'ai été artiste invitée en 2019. Et voilà, ensuite j'ai intégré l'équipe quoi, suite à ma participation au festival. Quoi.
Et comment votre trio s'est fait alors ? Est-ce que tu veux répondre, Margot ?
C'est-à-dire que moi j'ai proposé à Morgane, on n'habitait pas très loin en plus à Rennes, et du coup on se voyait souvent au marché. Et puis, ça s'est fait assez naturellement. Quoi. Je lui ai proposé de l'aider. J'avais pas vraiment émis le souhait de participer à la programmation, mais après ça s'est fait naturellement quand j'ai intégré l'équipe. Petit à petit, on a discuté et puis ça s'est fait. Parce qu'on a quand même des goûts qui se rejoignent, quoi. Ça c'est voilà. Du coup, je fais de la programmation, mais aussi un peu de démarchage et de coordination, enfin voilà.
Comment est-ce que vous travaillez tous les 3 ensemble ? Comment se forme votre trio ? Morgane ou...
Déjà, on se donne un peu une période où on aimerait bien terminer la programmation, donc ça nous donne un peu un objectif. On n'habite pas dans les mêmes villes, donc on essaye de se retrouver quand même sur des petites sessions de travail pour discuter vraiment. Après, on utilise un document en ligne qui nous permet de vraiment noter des idées d'artistes, de mettre des liens, d'expliquer pourquoi. Et ça permet de chacun travailler aussi au moment où il peut, où il a envie de le faire, et au moment où il pense à quelqu'un. Et ces sessions de travail où on se retrouve, ça permet un petit peu de discuter de ses propositions. Et après, on commence généralement, enfin en tout cas les 2 années qu'on vient de faire, on a commencé par poser de manière assez assurée 4-5 noms. Et après, pour les 5 autres qui restent, voire 5-6 autres qui restent, on est vraiment plus dans la construction, l'assemblage et essayer de trouver un équilibre entre les possibles propositions que les artistes feront. Il faut vraiment essayer de projeter ce qu'ils pourraient faire et sans faire le boulot à leur place, évidemment. Mais c'est important aussi, je pense, qu'on ait une formation d'artistes, que Guillaume et Margot aussi soient eux-mêmes artistes vraiment aussi au quotidien. Je pense que ça aide beaucoup aussi à pouvoir, sans forcément tout de suite être au contact des artistes, imaginer ce qui pourrait se passer.
Du coup, cette casquette artiste-programmateur, est-ce que tu vois ça comme des choses, Guillaume, par exemple, des choses vraiment séparées, ou est-ce que finalement c'est un peu entremêlé, un peu...
Ben, c'est pas les mêmes engagements, mais après c'est assez entremêlé dans la vie, dans... Disons que les choses se côtoient dans... En fait, il peut y avoir des artistes qu'on invite et qu'on a pu croiser auparavant dans nos propres pratiques ou à l'occasion d'invitations qu'on nous a faites. On en découvre d'autres que quelques années après, auxquelles on repense, avec le désir de les revoir, de pouvoir les inviter à notre tour. Mais c'est quand même assez différent. Et là, il y a une grande part de discussion aussi entre nous trois, de projection, comme disait Morgane. On les invite quand même sur des principes de carte blanche. Donc, on connaît leurs travaux antérieurs. Au moins, et parfois, on peut avoir d'ailleurs un regard assez orienté sur des parts de leur travail qui nous plaisent plus que d'autres, ou qu'on connaît plus que d'autres parts plus ignorées de notre part. Mais ce principe de carte blanche fait que on ouvre tout de suite la potentialité d'être surpris. Ça ressemble aussi à notre travail d'artiste. On anticipe des choses, mais dans la pratique, quand les choses sont en train de se faire, on le fait aussi pour être surpris.
Et Morgane, tu parlais aussi de trouver un équilibre. C'est quoi, ça veut dire quoi, trouver un équilibre ?
Ouais, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, on parle souvent de... Je pense qu'il faut vraiment utiliser la métaphore de la cuisine. Quand on élabore une recette, on réfléchit aussi à mettre un peu de ci, un peu de ça, et que les choses soient assez... on parle d'équilibre aussi dans le goût et dans la conception d'un plat. Et je pense qu'on est un peu là-dedans, quoi. Parce qu'en fait, on va inviter des artistes de domaines différents, du théâtre, des arts visuels, de la musique. Ce qui fait aussi, il y a cet équilibre aussi déjà dans ces différents domaines qui vont se côtoyer. Et aussi des artistes qui, au sens plus large, ont des démarches et des fonctionnements assez différents et qui vont proposer des choses qui vont aller du spectacle assez classique et frontal à des choses plus... qui invitent le public à participer, etc. Et donc, on doit se projeter aussi dans le déroulé du week-end du festival et s'imaginer les types de propositions qui pourraient en découler. Pour que ce ne soit pas, par exemple, 10 spectacles frontaux où le public est assis pendant tout le week-end. Parce que je pense qu'on a aussi cette envie avec CETU de créer un parcours, de rendre un peu mobile et actif aussi les spectateurs. Voilà. Du coup, c'est des dosages, en fait, de manières de travailler qui vont se côtoyer pour chacun des artistes, chacune des artistes. Voilà, c'est ça l'équilibre auquel je pense.
C'est vrai que la nourriture, c'est une part importante aussi, vu que tu faisais le parallèle avec la cuisine, une part importante dans le festival CETU. Et j'en profite pour du coup passer une des premières chansons que Margot nous propose.
Ragion perché affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la pa 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 pa, col po 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 pomodoro. Viva la pa 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 pa, che un capo po 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 lavoro. Viva la pa 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 pa, col po po pomodoro. Borbotta è causa della lotta, è causa del complotto, abbasso il direttore, lassù ormai le cotta, e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa, pappa, col popo 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 pomodoro. Viva la pappa, pappa, che un capo popo 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 lavoro. Viva la pappa, 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 col popo pomodoro.
Merci Margot pour ce choix. Donc c'était Viva la Papa de Dalida. Margot, pourquoi est-ce que tu as pensé à cette musique ? Pour sais-tu ?
Bah justement pour la cuisine, quoi, enfin pour la nourriture. Et le fait que ce soit un moment convivial et joyeux et un moment où tout le monde se retrouve, quoi, après des temps de travail sur place, quoi, sur le site. C'est vrai que le midi et le soir, c'est vraiment des moments où tout le monde s'assoit. Ils discutent, quoi. Et du coup, ouais.
Ça faisait sens, cette chanson, voilà. Quoi. Et puis, toi qui as été artiste et qui maintenant est programmatrice du festival, et donc tu as vu sous les deux aspects, comment est-ce que tu décrirais le festival à quelqu'un qui n'y est jamais allé ?
Je dirais que finalement, c'est un moment, quoi, qu'on crée ensemble. Parce que déjà la programmation n'est pas écrite, enfin le déroulé du festival s'écrit en fait la semaine avant. Du coup, je pense que c'est vraiment un moment qu'une équipe crée ensemble et invite le spectateur à rentrer dans cet espace temporel, voilà, que les artistes et l'équipe créent ensemble. Du coup, je pense que ouais. Je dirais un moment, quoi.
Un moment.
Ouais.
Et comment est-ce que vous pensez l'accueil du public pour ce moment ? Peut-être Guillaume ou Morgane ?
Ben, quand on a monté le festival avec Marie, c'était une des premières grandes questions, puisque d'avoir envie de faire un festival alors que on est plutôt dans la posture d'artiste et tout ça, et on avait aussi envie de réunir des artistes à travailler ensemble, donc un côté très rencontre interprofessionnelle. Mais en fait, c'était vraiment autant important que penser à la réception des œuvres qui sont montées et montrées au public. Et du coup, le choix du format de festival, ça nous permettait de penser, comme disait Margot, la convivialité dans ce moment-là.
Est-ce que tu peux redécrire un peu ce format de festival ?
Donc, c'est sur 2 jours et une nuit, une soirée. On invite le public à arriver le samedi midi à peu près, en début d'après-midi. Et ça se termine le dimanche en fin d'après-midi. Et il se passe vraiment 30 heures, où évidemment il y a des heures de sommeil, mais on propose aux artistes de montrer leur travail en continu sur ces heures-là. Et du coup, le public arrive, il a acheté son billet soit à l'avance en ligne, soit il achète son billet en arrivant. Il est accueilli, il y a une buvette, il y a la possibilité de se restaurer le soir et le lendemain midi. Et il y a un espace camping qui lui est proposé aussi, puisqu'on est quand même en milieu rural, assez, assez loin aussi. On n'avait pas envie que ça bloque des gens à pouvoir venir au festival. Et puis, l'aspect camping, c'est quelque chose quand même... en tout cas, nous, avec Marie, ce qu'on a connu dans notre jeunesse, entre guillemets, des festivals de musique breton, c'est aussi quelque chose qui participe au fait de créer un groupe de public. Même si ça ne dure que 30 heures, finalement, avec cette proximité, ben, on arrive à faire que la rencontre elle soit possible. Alors, c'est la rencontre entre le public entre eux, évidemment. Et puis, surtout, c'était l'idée d'inviter une dizaine d'artistes pour une centaine de publics, et un peu moins. Et qu'il y ait une équipe aussi qui est présente, une équipe qui est aussi publique de ce qui se passe. Les artistes sont eux-mêmes aussi publics des propositions des autres artistes. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'égalité qui se passe dans le groupe, d'équilibre aussi, encore une fois, et tout le monde dort en camping, tout le monde mange le même plat, tout le monde boit la même bière, tout le monde danse, et voilà. Donc il y avait vraiment cette pensée-là, dès le départ avec Marie, quand on monte le festival, de créer un groupe pour ce moment, justement.
Donc c'est dans une ancienne ferme pédagogique, où il reste encore quelques animaux, et dans la plupart des interviews que j'ai menées par rapport à l'édition 2020, on sent que dans le travail des artistes, il y a vraiment un lien très fort avec leur environnement, mais aussi la question animale, végétale. Est-ce que vous avez choisi le lieu pour développer une programmation orientée vers ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ?
Alors, on était plutôt dans vraiment l'envie de passer ce moment en extérieur, dans un paysage, plutôt à la campagne. Et on a assez rapidement trouvé cet endroit qui se trouve être une ferme, mais qu'on n'avait pas du tout pensé. On a fait avec, et on trouvait finalement ça aussi très intéressant d'avoir ce rapport aussi à une ferme qui est habituée aussi à avoir quelque part de la visite, du passage, ce qui fait qu'aussi on se sentait moins imposante. On était assez bien accueillis, évidemment, par la propriétaire, mais aussi par les animaux, qui étaient très contents de nous voir. et après, on n'est jamais parti sur des propositions, enfin, une programmation qu'on appellerait in situ, qui serait vraiment en réponse à la nature environnante, à la présence des animaux, mais plutôt proposer aux artistes de travailler comme ils le souhaitent aussi. Et de venir aussi avec des projets qu'ils ont déjà joués ailleurs, qu'ils ont déjà travaillé avant d'arriver. Et très vite, s'est posé la question qu'il fallait quand même un petit temps pour eux d'adaptation. Parce qu'ils sont quand même, en général, plus habitués à travailler en ville, dans des espaces fermés, et aussi dans des espaces neutres, qui sont dédiés aussi à l'art, en fait. Et c'est ça qu'on avait envie en étant en milieu rural et en extérieur, c'était de sortir de ces milieux dédiés pour aussi, encore une fois, ouvrir en fait un autre public que le public, on va dire, de professionnels, de personnes du milieu qui sont habituées en fait à avoir ces propositions de performance qui sont souvent diffusées au moment des vernissages, donc des moments qui sont quelque part quand même si souvent se veulent ouverts, ils sont assez orientés sur une rencontre professionnelle, quoi.
Et est-ce que vous arrivez à avoir un public aussi diversifié ?
C'est pas évident. Aussi, parce que je pense qu'on ne vit pas sur place. On vit dans le Finistère ou à Rennes. Mais voilà, on n'y est pas à l'année. Donc, il y a un contact qui se fait très doucement. Mais qui commence là, à vraiment exister. On tient à faire, évidemment... Enfin, on se manifeste auprès de la presse locale, etc. Ça nous aide beaucoup quand même. Et ce qui fait que dès la première édition, il y a eu quand même un public de curieux qui vivent dans les parages et qui ont envie de voir ce qui se passe dans leur ville et qui ont aussi envie de voir qu'est-ce que ça donne un festival dans une petite ferme, même s'il y en a évidemment d'autres et beaucoup. Mais là, on, dans la presse, en tout cas, on essaye de bien expliquer que ça va pas être un festival de musique ou de théâtre. C'est quelque chose vraiment hybride avec des formes très expérimentales. Et ça, on le dit vraiment haut et fort parce qu'on n'a aussi pas envie que le public soit en quelque sorte piégé et qu'il se sente à l'aise de aussi pas comprendre ce qui se passe, d'être dans une sorte de laboratoire en fait aussi artistique et que ce soit OK et que tout le monde sache, tout le monde est OK de pas comprendre ce qui se passe parfois.
Tu parles de forme hybride. J'ai l'impression qu'aussi, sais-tu, c'est beaucoup lié à la performance. Peut-être on va parler un peu de performance, mais j'aimerais qu'on écoute avant ça un poème de Hugo Ball qui s'appelle Caravané, qui est donc un artiste dadaïste qui a fondé le café Voltaire à Zurich et qui est donc enfin qui a beaucoup influencé sur la performance aujourd'hui.
Juli Pantu Bambla, Ufali Bambla, Rosija Empahabla Hora, Etiga Korame, Ijubloiko Rusula Hubi, Holaka Holala, Alagu Bum, Blagu Bum, Blagu Bum, Posso Fataka, Kusu Budu, Subu Du Gula Kumbrutu, Asa Batu Sa, Dada Balupe, Kusa Kola.
Peut-être Guillaume, est-ce que tu connais un petit peu la performance dadaïste ou...
Ouais, ben... Bah, j'en connais des bouts, enfin d'histoire de l'art, quoi.
Est-ce que dans le choix de la programmation, il y a quelque chose qui se réfère quand même un petit peu à l'histoire de la performance ou pas du tout c'est quelque chose qui vous est un petit peu extérieur?
Ben, je pense qu'on en hérite, enfin notre génération, et forcément, et que cette histoire, elle peut vivre de manière très différente, enfin en chaque artiste qu'on invite. Après, notre programmation, elle est assez focalisée sur l'art qui se fait, enfin, en train de se faire, quoi. Qu'on peut appeler art contemporain ou l'art en train de se faire, je crois que ça me plaît bien comme terme. Et moins sur, sur des questions historiques, enfin, ou de rétrospective. Mais je pense que dans le travail de chaque artiste, il y a des manières d'aller puiser, d'aller se nourrir des choses qui nous environnent et qui aussi irriguent, qui peuvent être parfois les sources de formes actuelles.
Dans la performance dadaïste, en tout cas, il y avait cette envie d'un petit peu de défier l'ordre public, de changer sa relation au public. Est-ce que, Margot, par exemple, tu penses que justement le fait que ce lieu soit un petit peu hors des lieux de l'art classique, comme disait Morgane, c'est quelque chose qui pourrait rentrer dans cette lignée-là ou...
C'est-à-dire que c'est vrai que déjà l'espace extérieur, quoi, d'être en plein air, la déambulation, enfin, il y a plein de choses du mouvement des corps, que ce soit celui des performeurs comme celui du public, qui permet en fait que ce moment-là passé ensemble soit vivant, quoi. Et où on est moins dans des rapports frontaux, comme Morgane pouvait dire tout à l'heure. Enfin, on est plus dans des choses qui se meuvent, quoi. Et je pense que ça permet aussi à un public qui est peut-être moins aguerri d'appréhender de manière plus... de faciliter, en fait, ce rapport-là public... et performeur, quoi.
Donc c'est vraiment, oui, entre toi qui disais le moment, toi qui parles de l'art en train de se faire, il y a vraiment quelque chose dans l'ordre du présent.
Oui.
Ce qui peut-être est un petit peu différent d'une programmation dans une salle ou dans un musée.
Ouais, je pense qu'une différence peut-être aussi avec Dada, le cabaret Voltaire, c'est... je pense le contexte très urbain de l'époque et quelque part, cette urbanité participait aussi à mettre, ces créations et ces artistes au cœur d'une forme de débat de l'époque, de l'art en train de se faire à l'époque, et que là, en se déployant dans une ferme pédagogique et les alentours, puisque depuis quelques années, le festival est aussi sorti de la ferme. Et il se déploie quelques jours en amont dans le bourg des Lions, mais aussi à la chapelle de Saint-Herbotte sur la commune voisine d'Ergué-Gabéric.
De Cardévote.
Cardévote. Ouais, je ne sais plus où est Saint-Herbotte. De Cardévote. Quelque part, on s'ancre dans un territoire bien différent de celui un peu qui est une espèce de cœur historique présupposé pour l'art contemporain. Et on le met en partage sur d'autres territoires.
On va aller un petit peu dans le cœur du sujet et parler de la prochaine programmation. Et on va introduire cette prochaine programmation avec un des artistes que vous avez invité qui s'appelle LG ou Elg et qui, là, on va écouter une musique à lui qui s'appelle Oura.
Elle chante en do, il chante en do. Enfin, c'est pas, je crois, c'est ce.
Pour parler de cette programmation, est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut un petit peu, peut-être d'abord, exprimer un petit peu quel type d'artiste c'est, le nombre d'artistes, comment vous pensez que ce moment va être ?
Ouais. cette année, on a invité des artistes aux pratiques assez différentes. Du coup, on a des personnes qui viennent plutôt de l'art. Des arts vivants, des arts du spectacle, de la danse et du théâtre, comme Ophélia Jarl Ortega, qui est une artiste suédoise, Wandine Klaus et Kotomi Nishiwaki. Ensuite, on a des artistes plutôt qui viennent des arts visuels, des arts plastiques, comme Reda Boussela, Anna Reutinger. Voilà, et puis aussi des musiciens comme LG qu'on vient d'écouter, qui a aussi une pratique de fiction radiophonique, fiction sonore. Donc c'est vrai que cette année encore, comme les autres années, il va y avoir quand même des gens avec... Il va y avoir une rencontre des pratiques et des formes, quoi.
C'est assez international aussi, du coup.
Ouais, bah, cette année, y a Kotomi qui est japonaise, Ophélia qui est suédoise.
Du coup, sur place, vous parlez en anglais, en français, il y a des...
En franglais.
En franglais, ouais, on est assez fort. Mais oui, ce qui est pas mal, c'est que souvent les gens qui travaillent dans le milieu artistique, enfin pas forcément nous, mais plutôt les artistes sont habitués à voyager. Du coup, déjà dans le groupe d'artistes, ils peuvent se parler entre en anglais. C'est pas trop compliqué. Donc on essaie de pas trop isoler. Margot est quand même assez très à l'aise aussi. Puis elle a travaillé, elle a fait ses études à l'étranger, donc quand même plus simple aussi. Voilà, après quand on communique par mail, on passe par l'anglais, par évidemment, l'anglais. Pour être bien compris.
Est-ce qu'il y a peut-être un ou une artiste de cette programmation où vous pourriez un petit peu développer son travail et ce qu'elle va faire pour le festival, en avant-première justement dans la navette?
Ben, il se trouve qu'une artiste de la programmation est déjà en train de travailler sur son projet, puisqu'on a fait un partenariat avec l'atelier culturel de Landerneau. Qui nous aide à parce qu'ils nous ont invités dans un festival d'art qu'ils vont faire en 2022, enfin qui a été reporté, en fait nous permettent de faire une invitation pour cette artiste donc qui est Charlotte Coury, qui va venir à la fois au festival Sétu, à la fois au festival d'art de Landerneau. Et donc elle travaille en ce moment dans les locaux de la ville de Landerneau sur son projet. Pour l'instant, elle est autour de la conception d'une œuvre, d'une sculpture mobile qui va lui servir d'accessoire, en tout cas de base de départ pour la proposition de performance qu'elle va faire au festival Sétu. Et puis, une autre étape de travail, en tout cas une déclinaison aussi de ce projet en 2022 à Landerneau. Donc c'est un montage un peu comme ça complexe qui nous permet aussi de mieux accompagner cet artiste au niveau aussi financier, au niveau temps de travail. Parce que c'est vrai que les artistes viennent que quelques jours en fait sur place à Elian, donc ça va très vite pour eux. Et là, ça lui permet de concevoir un projet plus ambitieux, qui est vraiment aussi pensé pour l'extérieur pour le coup, puisqu'elle a dans le projet de, enfin, elle est en train de construire une voiture lit, donc vraiment dans un format petite voiture sans permis qui devient un lit en fait. Enfin voilà. Et ce qui fait que c'est une sorte de petit char Et elle pense vraiment aussi ce véhicule pour le côté tout terrain, pour les différents sites où elle va montrer son projet. Après, c'est quand même une artiste qui vient vraiment de la performance dans les arts visuels, donc il y a un rapport à l'objet, à l'accessoire, au costume, mais aussi qui a aussi une approche assez théâtrale, qui est dans l'écriture aussi de textes et dans une proposition qu'elle va faire elle en tant qu'interprète, mais elle a aussi des envies d'inclure aussi, de profiter en fait, parce que c'est vrai qu'on propose aux artistes, ils n'ont pas forcément qu'une heure devant eux pendant le week-end pour montrer quelque chose. On leur dit vraiment, vous pouvez faire une proposition de 10 minutes, une proposition de 4 heures, vous pouvez faire 3 propositions, enfin quelque chose qui va être séquencé dans le week-end. Vous pouvez faire plusieurs fois votre proposition si c'est nécessaire pour votre projet, etc. Il y a cette liberté-là aussi qui fait que les artistes, ils peuvent aussi, ils sont très vite en train de penser le rapport à la diffusion et au public. Et voilà, du coup, Charlotte est vraiment encore en train d'écrire. Et en tout cas, là, elle est déjà sur place en train de commencer son projet.
Est-ce que le public pourra venir faire la sieste dans ce lit?
Je ne sais pas. En tout cas, elle a des envies de se balader la nuit avec les phares allumés de son lit magique. Elle va peut-être amener les gens pour aller se coucher dans leur tente. Elle va peut-être les accompagner, je ne sais pas. Elle fera peut-être la navette sur le site.
Quoi. Une concurrence à la navette,
peut-être.
D'accord. Et sinon, est-ce que dans ces invitations... peut-être, bah, Guillaume, toi, tu pourrais décrire. Je suis assez curieuse de savoir, ça veut dire quoi vraiment inviter un artiste? Vous parlez de carte blanche, d'invitation. Comment ça se fait, ça, ce moment avec l'artiste?
Ça dépend un peu de la manière dont on peut les connaître. Parce que pour certains, comme je disais, on a pu les croiser auparavant et on peut avoir, du coup, un rapport à eux, une certaine familiarité qui fait qu'on qu'on peut presque leur en causer comme ça, tiens. Et avant de leur faire une déclaration plus officielle, fin de les inviter avec, en leur donnant toutes les informations nécessaires. Et en tout cas, tous à un moment, ont les mêmes, clés en main, en quelque sorte, avec une forme de présentation la plus complète possible qu'on leur fait de ce qu'est ce festival, ce qu'on tente d'y faire, notamment dans la relation au public. Enfin, ça, c'est des choses dont on leur parle beaucoup. On leur évoque aussi beaucoup l'environnement, les sites qu'ils pourront y trouver, et même des ambiances liées aux heures du jour ou de la nuit, qui peuvent beaucoup influer la tonalité de leur projet et de ce partage avec le public. Et avec ça, chaque artiste est invité, oui, donc sur ce principe de carte blanche, à se saisir de ces éléments pour, comme a pu dire Morgane, pour reprendre des choses déjà expérimentées, enfin, ou des projets déjà écrits de leur part, pour les adapter sur le site, ou alors tenter quelque chose de complètement inédit pour eux. Enfin, comme là, Charlotte nous disait que Charlotte Coury, ces jours-ci, nous disait que voilà, ce lit qu'elle est en train de fabriquer, elle l'aurait. Enfin, c'est probablement cette occasion, peut-être un peu excentrée de ces lieux habituels de travail et d'exposition. Qui lui fait dire je tente le coup et peut-être que je m'y risque, quoi. Et voilà, c'est peut-être une réussite en ce sens.
Ouais.
Réussite de la carte blanche.
Margot, est-ce qu'il y a des artistes programmés que tu connais alors, qui sont justement, comme disait Guillaume, qui te sont très familiers dans la programmation 2021?
Oui, bah, y a Florian Steiner qui est musicien et aussi qui travaille à la forge, qui travaille le métal, quoi, donc qui est un très bon ami. On le connaît tous. Hein, ouais. Et puis aussi Anna Reutinger, qui est une artiste que j'ai rencontrée à Amsterdam, qui est américaine, voilà, qui a une pratique de la sculpture, mais aussi de l'atelier, du faire ensemble. Voilà. Que j'ai connu pendant mes études.
Voilà. Du coup, dans cet façonnage de la programmation, vous mettez en commun différents. Donc toi, tu as choisi différentes personnes et ensuite vous les invitez tous les trois ensemble, ou alors c'est chacun qui invite un ou l'autre, ou...
Bah, c'est vrai qu'en général, on signe à trois l'invitation parce que on la pense ensemble, quoi. Et quand on me propose un artiste, en général, on en rediscute. Enfin voilà, c'est quand même une invitation à trois, quoi. Chaque artiste, on a tous les trois envie de les inviter, quoi.
Puis on essaye aussi, ouais. après qu'ils aient accepté l'invitation, on essaye de les appeler au moins une fois tous les trois pour avoir ce temps, justement, un peu... où ils comprennent un peu qui sont les personnes qui ont pensé la programmation. On peut leur parler des autres artistes, etc. Bien leur redonner des conditions aussi d'accueil et qu'ils puissent eux aussi nous expliquer un peu ce sur quoi ils travaillent en ce moment, tout ça. Ça, on essaie de le faire à trois. Enfin, moi, je trouve ça important en tout cas. Mais après, c'est vrai que c'est quand même bien d'être trois pour se partager le travail. Du coup, on peut avoir après plutôt des interlocuteurs. On va être plutôt se partager les artistes aussi pour voir avec eux, mais suivant aussi, on va dire, les spécialités de chacun, chacune, là, dans le groupe. Voilà, on va... Et puis, les affinités, c'est vrai que Margot, par exemple, va côtoyer Florian à Rennes. Elle va, du coup, quelque part, plus facilement parler avec lui.
Je vois.
Voilà, on va pas non plus mettre un cadre trop strict, mais c'est bien aussi de de pouvoir se arriver à trois comme ça, puisque c'est comme ça que ça se passe.
Du coup, donc, ces artistes programmés arrivent quelques jours en amont du festival, là où vous allez passer un moment, enfin où on va passer un moment tous ensemble. Mais depuis l'année dernière, il y a une résidence qui est aussi la semaine avant la semaine de préparation du festival. Est-ce que, pourquoi vous avez choisi d'ouvrir à ce format de résidence? Je pose peut-être là, comme ça, je lance des questions. Pourquoi ça vous semblait important d'avoir un temps en plus avec ces artistes? Et qu'est-ce que ça vous permet, qu'est-ce que ça transforme dans le format du festival pour vous? Je ne sais pas qui veut...
Bon, je peux y aller si vous voulez. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on a, au bout d'un moment, pensé avec Marie. On s'est dit, c'est vrai qu'une semaine, c'est court, comme je disais tout à l'heure. C'est court, on accueille en même temps une dizaine d'artistes. Donc, il faut aussi trouver du temps pour chacun, chacune et tout ça. Et ça peut être aussi assez frustrant, à la fois pour nous, mais aussi pour eux, d'être très, que tout soit intense et court. C'est bien aussi, parce que je pense que ça aussi, ça donne des projets qui ont cette énergie-là. Mais on sentait qu'il y avait quelques invitations qui auraient mérité quelque part d'avoir plus de temps et plus de moyens aussi. Il y a cet aspect-là, donc vraiment très lié à la création, à la pratique artistique. Et puis, il y a aussi, comme je disais, cette peut-être un peu difficulté, en tout cas, quelque chose de pas évident pour nous, d'arriver à Élian pendant juste une semaine ou 10 jours au mois d'août, et de dire, bah coucou, on fait un festival, venez, ça va être bien. Et en fait, du coup, la résidence qu'on a pensée tout de suite... pour le bourg de la commune d'Élian, c'était aussi se rapprocher du point central de la ville où on peut croiser en fait les habitants tout simplement. Parce qu'on y vit une semaine, qu'on y travaille et que les artistes qui arrivent la plupart du temps, en tout cas dans ceux qu'on programme, sont quand même très portés sur un travail qui se contextualise, qui prend vraiment en compte l'univers dans lequel ils vont monter le projet. Donc quelque part, ils sont... déjà dans du relationnel avec le territoire et aussi ses habitants parfois. Quoi. Mmh. Et on l'a fait pour la première fois l'été dernier. Ça s'est vraiment très bien passé. On a été aussi bien accueillis, je pense, par les collectivités locales qui nous ont aidés et aussi par les habitants qui, en fait, sont très, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, très curieux et très intéressés pour... reconnaître un peu plus du festival. C'est vrai que de voir les articles tous les ans dans ou les affiches, c'est bien, mais ils ne savaient pas trop s'ils se sentaient à l'aise ou s'ils étaient autorisés en quelque sorte à venir. Là, de nous voir, d'être là, qu'on puisse aussi très simplement parler du festival et que les artistes en fait le portent, bah, ça a permis qu'il y ait aussi plus de personnes de la ville qui viennent assister au festival. Donc c'était aussi cette donnée-là. Et puis, chez Morgane Quadou, la propriétaire, on est très excentré. On est à plus de 10 minutes en voiture du bourg de la commune. C'est une commune très étendue. Et c'est quelque chose qui est bien parce que pendant le moment du festival où on essaye justement de faire un groupe construit, c'est important d'être dans cette bulle et ça fait du bien. Et c'est ça qui aide aussi. Mais c'est vraiment cette bulle aussi qui est hors du monde. Et c'était important aussi pour nous d'essayer de raccrocher avec le monde, en fait. Du coup, d'être dans le bourg d'une ville, c'est simple, en fait. On va acheter du pain, on va boire une bière. On passe tous les jours entre l'endroit où on vit, l'endroit où on travaille. Et voilà, en fait, ça se fait comme ça.
Eh bien, flânons un petit peu entre cette bulle du bourg et cette bulle du festival à regarder la sculpture de Charlotte Coury, à être dans le lit ou hors du lit.
Sacré géranium, tu sens bon la terre, et toi aussi l'anémone, tu l'y peux, mais je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdemoiselles. Hey, chagadaya, dis donc, oh, ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Hein. Pas besoin de chou pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Ouh, 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 ouh. Les poules et le coq se compte fleurette. C'est vrai qu'il est seul, ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue bien ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Hey, fine, da da da, oh, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Ah, qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chaud. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Oh, oh, Friday, day, 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 hey, ah, on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. For hide.
Merci Morgane pour le choix de cette musique. Donc c'était Dick Annergan, Sacré Géranium. Est-ce que il y a un petit... Tu l'as choisi parce que ça te faisait penser au festival ou...
Bon, oui, non, c'est une musique que j'ai souvent en tête. Et bizarrement, je me souviens d'une édition où quand on préparait l'édition, le matin, je l'avais tout le temps en tête quand je me levais. Ouais, je trouve que c'est un peu quand même une chanson, on va dire, entre guillemets, manifeste, parce que c'est vraiment aussi... Enfin, en tout cas, Thomas qui m'en a parlé, comment lui, il voyait les choses. Je suis assez d'accord, c'est... cet aspect du s'occuper du potager, s'occuper, mais regarder surtout. regarder tranquillement les choses pousser et juste les aider vite fait à pas trop. À bien grandir, on va dire. Il y a ce côté-là. Et puis aussi le côté de, on va dire, l'économie très, très simple et petite avec laquelle on travaille. Et pas besoin de sous pour être bien, je pense que c'est. Quelque chose qui était à la base du projet aussi. Évidemment, on a toujours besoin d'argent. Hein. C'est pas du tout ça que je dis, mais enfin, en tout cas dans le monde actuel. Mais qu'on est un groupe assez fort aussi pour être presque mieux que si on était très confortable. Parce qu'on est nombreux et qu'on s'entraide. Et voilà. Du coup, c'est bien sûr, ça me fait penser au moment qu'on vit. Et c'est pas pour rien que j'ai dans la tête au moment où on travaille.
Ouais. C'est vrai qu'il faut avoir un potager avant de cuisiner.
Fait.
Ouais. Et je précise, Thomas, c'est Thomas Delahaye, le régisseur du festival et aussi coordinateur, administrateur. Enfin, tout le monde a plusieurs casquettes. Hein. Les programmateurs ne sont pas seulement programmateurs. Et puis, toi, Guillaume, tu as fait une sélection musicale un peu... enfin, que je ne connaissais pas du tout, en tout cas. Et du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu, avant qu'on écoute la musique, nous parler de ce choix et de cet artiste ?
C'est Guédalia Tazartès que j'ai choisi en fait pour différentes raisons, à la fois pour illustrer la manière dont on peut travailler. En fait, il était sur cette petite liste qu'on élabore tout au long de l'année et sur laquelle on vient inscrire des artistes qu'on imagine pouvoir intégrer la programmation. Et donc il se trouve que moi je l'avais retenu. En fait, c'est quelqu'un que j'ai vu performer il y a quelques années à Montreuil, près de Paris, alors que j'étais pas particulièrement prévenu. Enfin, c'est une amie qui m'y a mené. Et c'était dans une espèce de grande salle qui ressemble un peu à une sorte de hall de réception de mairie. Et donc c'était comme ça, un petit monsieur habillé de noir avec un chapeau et il y avait plusieurs centaines de personnes assises à ses pieds. Lui était debout avec des petites clochettes, un poste de radio, enfin sur lequel il lançait des boucles préenregistrées sur un CD et qu'il accompagnait par la voix dans des styles très variés qui, enfin, morceau après morceau, faisait comme des tableaux musicaux, enfin des tableaux sonores de diverses ambiances de différents endroits du monde ou de différents contextes, enfin de contextes très mondains jusqu'à des ambiances presque chamaniques ou très spirituelles. Et voilà, enfin c'est un artiste qui m'a complètement impressionné. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui avait plus de 70 ans et qui est décédé cette année avant que, quelque part, on puisse en discuter réellement entre nous, à savoir est-ce qu'on l'invite ou non. Et voilà, et donc c'est
donc
aussi...
on l'invite sur Radio Évasion.
Voilà, c'est une manière de malgré tout, le programmer et puis de l'honorer, de le mettre en partage... Voilà, et donc ces deux morceaux enchaînés qui sont vraiment pensés pour, j'imagine, enfin pour leur complémentarité et qui, j'ai l'impression, avaient une dimension autobiographique et qui donc s'appellent Petit Monsieur Tazartès et Grand Monsieur Tazartès.
On y va. Bah merci pour ces choix musicaux. Merci pour cette émission qui va se terminer. J'aimerais vous lire un dernier petit texte pour conclure qui est sur un oiseau. Vous prenez ou pas le lien avec tout ce qu'on s'est dit. Mais voilà, c'est pour voyager un petit peu en Bretagne. Macaremoine, le bouffon de la mer. Son accoutrement est un continuel sujet d'étonnement. Avec son bec en arc-en-ciel et son masque de carnaval, le macaremoine constitue, à l'évidence, le clou du spectacle sur les côtes bretonnes. A-t-on jamais vu un oiseau aussi affublé ? Sa présence est d'autant plus recherchée qu'elle se fait rare. Quelques couples disséminés ici et là sur les rochers herbeux à la saison des nids, davantage aux sept îles, où pourtant la population diminue malgré tous les efforts consentis pour la maintenir. Cependant, le perroquet de mer est ici chez lui, dans ce paysage chaotique, ultime rempart contre le flot coléreux. Il y revient chaque année pour assurer sa descendance dans un terrier où lui-même a vu le jour. Étrange paradoxe pour cet habitant du large, fils de la houle et du vent, épris d'espace et de liberté. Le nid, creusé avec le bec ou volé à une famille de lapins, est là, sur ces pentes herbeuses qui plongent vers la mer et où fleurit l'œillet marin. Durant plusieurs semaines, les propriétaires en ont interdit l'accès, disputant leur lopin de terre avec l'autorité du conquérant. Sous l'aspect bonasse du bouffon de la mer se cache en effet un terrien obstiné. D'avoir une tête de clown n'exclut pas l'attachement à son bien. Voilà. Merci à Morgane Besnard, Margot Parillo et Guillaume Pellet pour cette émission. Merci à Thomas Delahaye pour le jingle de l'émission. Et on se retrouve pour le festival cet été, les 28 et 29 août, dans la ferme de Morgane Coidou à Ménez-Rosiane. Au revoir. Douze interviews, deux jours, un festival, sais-tu ? Voilà.